IRM Environnemental. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui M. François Melloch. Je vous l'ai présenté avant la pause. Il fait partie du groupe Investissement Responsable de Montréal. Pourquoi on a décidé de parler justement d'investissement responsable? Eh bien, vous savez peut-être que le mois d'avril, c'est entre autres un des mois célèbres pour les assemblées annuelles des différentes compagnies une fois que l'année fiscale est terminée. Et semble-t-il qu'on aurait un moyen en tant que petits investisseurs de faire changer l'agir de ces fameuses entreprises qui ont de grosses répercussions, ça ne se le cachera pas, sur l'environnement et sur beaucoup d'autres choses. Donc, François Melloch, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va bien.
Magnifique. Peut-être important de cibler pour notre auditeur, qu'est-ce que l'investissement dit responsable?
OK, bien, on peut voir dans l'investissement responsable, il y a trois grandes stratégies. La première étant la stratégie des filtres, c'est-à-dire que on évite les compagnies, en tant qu'investisseur, on évite d'investir dans des compagnies qui ont des comportements sociaux et environnementaux en deçà de l'industrie ou qui sont, disons, les pires compagnies là, d'une industrie, ou bien, inversement, de favoriser l'investissement dans les compagnies qui sont les plus performantes au niveau environnemental et social, ou du moins qui essaient de prendre leurs responsabilités en tant qu'entreprise. Là,
on va revenir un petit peu plus profondément sur cette stratégie-là. Ouais. Vous avez dit qu'il y avait trois stratégies.
Oui, la deuxième, c'est ça. La deuxième, on parle d'engagement ou de dialogue ou de militantisme. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, on investit dans... peu importe dans quelle entreprise on investit, une fois qu'on est actionnaire d'une entreprise cotée en bourse, on a des responsabilités envers cette entreprise-là en tant que propriétaire ou copropriétaire de cette entreprise. Et puis, on utilise différents mécanismes pour influencer les politiques et les pratiques des entreprises, dont finalement la stratégie, le moyen le plus efficace pour faire ça, c'est les propositions d'actionnaires. Quand tu es actionnaire d'une entreprise, tu as le droit de faire une proposition et puis tous les actionnaires sont appelés à voter en faveur ou contre. Alors, il y a toutes sortes de propositions à caractère environnemental et social à chaque année qui sont présentées aux assemblées. Puis là, comme vous disiez tantôt, c'est en ce moment que ça se passe, là, mois d'avril, mois de mai, mois de mars.
Donc, la deuxième stratégie un petit peu plus militante où les gens vont aller demander quelque chose à l'entreprise directement. Et il y aurait une troisième stratégie lorsqu'on parle d'investissement responsable.
Bien, la troisième, on peut dire que c'est de l'investissement dirigé vers des côtés... on peut dire que c'est l'investissement communautaire ou l'investissement qui vise des technologies vertes ou vraiment des entreprises qui ont un produit qui est intéressant pour la société. Et puis, mais nous, disons que au groupe Investissement Responsable, notre première stratégie qu'on propose à nos clients, puis nos clients, c'est principalement des investisseurs institutionnels, c'est pas tellement des particuliers, c'est de dire, premièrement, la première étape, c'est au moins de voter les propositions d'actionnaires qui viennent aux assemblées. Et puis, c'est parce qu'en ce moment, il y a plein de monde qui ont des actions dans des compagnies, il y a plein de caisses de retraite qui ont des actions, qui votent contre des propositions à caractère social et environnemental, juste parce qu'ils n'ont pas de politique de vote, juste parce qu'ils ne savent pas. Puis de facto, quand tu n'as pas de politique, ton gestionnaire qui gère ton portefeuille, lui, il vote tout le temps de la même façon que l'entreprise propose de voter. Hmm. Alors, par exemple, il y a eu des propositions à la baie du Thon à propos d'adopter des normes plus strictes au niveau des conditions de travail.
Ça, c'est la compagnie Labbé.
Oui, Labbé. Il y avait plein de gens, dont des syndicats, qui votaient contre cette proposition-là, juste parce qu'il n'y avait pas de politique. Alors, nous, on essaie de faciliter le processus pour que ces caisses de retraite adoptent des politiques, pour au moins voter.
La deuxième étape... Est-ce que c'est possible de s'abstenir ce genre de vote-là?
Bien, absolument, tu peux t'abstenir, mais absolument, c'est mieux de voter pour ou contre. Okay. Mais des fois, tu as l'option de t'abstenir aussi. Puis, mais on propose de faire ça, mais la prochaine étape, c'est d'aller une étape plus loin, puis c'est de vraiment entrer dans un dialogue avec les entreprises. Puis ça, il y a quelques fonds au Canada qui commencent à le faire. Aux États-Unis, ça se fait depuis une trentaine d'années. Il y a une longue tradition de dialogue. Et puis, l'idée, c'est que tu essaies d'encourager l'entreprise à aller dans une certaine direction. Si ça marche pas, tu fais une proposition d'actionnaire, puis les compagnies n'aiment pas ça, les propositions d'actionnaire.
Juste pour nos auditeurs, peut-être une proposition d'actionnaire, c'est lors de l'assemblée annuelle.
C'est une proposition avec un. Habituellement, c'est une demande que l'entreprise soit divulgue de l'information, soit adopte une politique. Par exemple, sur la question des changements climatiques, les actionnaires demandent aux producteurs de pétrole ou les producteurs d'électricité de faire un rapport sur les émissions de gaz à effet de serre et puis de décrire là-dedans leur stratégie pour faire face au à l'avenir, dans un avenir avec le protocole de Kyoto et tout ça. Puis ça a l'air assez soft comme demande, mais en fait, pour des grosses entreprises qui reconnaissent même pas que les changements climatiques sont un problème, c'est une étape. T'sais. Puis là, récemment, ça vient d'arriver avec des gros producteurs d'électricité, là, les utilities aux États-Unis, qui sont les centrales au charbon, qui sont en fait 10% des gaz à effet de serre de la planète. Ben le plus gros, récemment, a accepté de faire un tel rapport. Alors, ça a été vu comme un point tournant un peu. Alors, l'idée, c'est que ces actionnaires-là vont faciliter le changement. Ils sont pas tout seuls. Il y a tout le temps des groupes, des ONG qui travaillent là-dedans aussi. Mais souvent, quand on voit des succès, c'est quand et les ONG, et les investisseurs, et les médias, tout le monde se met ensemble sur un sujet, puis ils font bouger les choses.
Intéressant. Et moi, je me sens un petit peu moins concerné parce que j'ai pas d'action en toute franchise. Et après, on va revenir, ben oui, je dois l'avouer, je suis encore étudiant en grève, je vous le rappelle. On va revenir après la pause, peut-être justement pour faire comprendre aux gens qui, comme moi, n'ont pas d'action à première vue, mais qui éventuellement vont avoir vraiment un rôle à jouer avec ces différentes compagnies-là et comment ils peuvent le jouer. Nous avons le plaisir, je vous le rappelle, de s'entretenir avec François Meloche du groupe Investissement Responsable qui nous décortique un petit peu qu'est-ce que l'investissement responsable. Il nous a parlé d'une stratégie d'actionnaire qui faisait des propositions lors d'assemblées annuelles et moi de demander, mais moi qui n'ai pas d'action, en quoi suis-je concerné? Et M. Meloche va nous renseigner un petit peu plus justement à savoir qu'est-ce que...
Premièrement, tu n'en as pas maintenant, mais peut-être éventuellement
entre autres,
vous allez en avoir.
J'espère.
Mais, du moins, pour l'instant, pour un étudiant, dans une université, là, par exemple, les universités, l'UQAM, McGill, toutes les universités, en fait, ont plusieurs fonds investis dans les compagnies publiques. Par exemple, à McGill, que je connais un peu plus, il y a un fonds, l'Endowment Fund, qui est un fonds qui sert à financer toutes sortes d'activités. C'est plusieurs millions de dollars et ça, c'est investi un peu partout. Il n'y a pas de politique d'investissement responsable, ou il n'y en avait pas, en tout cas, jusqu'à récemment. Et puis, bon, alors ça, c'est un aspect. Là, en tant qu'étudiant, on est dans une institution. À chaque fois qu'on est dans une institution, en fait, cette institution-là a probablement des fonds investis.
Donc, de demander à l'institution où vont vos placements, est-ce que ce sont des placements éthiques ou...
C'est ça. Puis tout le temps, le même processus. Premièrement, adopter une politique de vote. Ensuite, adopter une politique d'investissement incluant peut-être les fils, peut-être le militantisme. Mais deuxièmement, en tant que Québécois, n'importe qui travaille au Québec contribue au régime des rentes du Québec qui est administré, qui est géré par la Caisse de dépôt et de placement, qui est une institution unique peut-être en son genre, en tout cas en Amérique du Nord, c'est beaucoup d'argent. En fait, c'est au-dessus de 125 milliards en tout qui est géré par la Caisse. Et puis, aussitôt qu'on travaille au Québec, on contribue une partie de notre paye à ça pour notre retraite éventuellement. Donc ça, c'est ce qui est intéressant, c'est ça. C'est un des plus gros investisseurs en Amérique du Nord. Ça se compare aux gros fonds américains. Et puis, récemment, la Caisse vient d'adopter une politique d'investissement responsable.
Wow.
Qui inclut toutes sortes de choses au niveau social et environnemental, et puis aussi qui inclut la notion de dialogue avec les entreprises et d'éventuellement entrer en dialogue sur ces sujets-là. Ça, vous pouvez aller sur leur site, trouver cette politique-là. Puis là,
parce que la Caisse détient justement des actions dans plusieurs entreprises partout à travers le monde et pourrait menacer, par exemple, de se retirer d'une entreprise.
Ouais, ou plutôt vraiment indiquer sa préférence pour une pratique ou une politique. C'est pas nécessairement se retirer la solution tout le temps.
Cas extrême.
C'est ça. Peut-être, s'il juge vraiment qu'il n'y a rien à faire avec cette entreprise-là, il pourrait se retirer. Faut dire que dans toutes les petites compagnies canadiennes, plusieurs américaines, puis plusieurs dans le monde. Et puis souvent, il y a des compagnies qui se retrouvent dans le portefeuille qui sont aux prises avec des grosses controverses. Là. Puis on pense à des petites compagnies minières qui sont dans les pays en voie de développement. La caisse a souvent un intérêt là-dedans. C'est pas nécessairement gros, puis ça veut pas dire qu'ils ont un poids super pesant, mais c'est quand même ça. C'est intéressant.
Quand vous dites qu'elles ont adopté récemment cette politique-là, est-ce que c'est dans les dernières semaines ou...
C'est en 2005.
Ok, donc c'est vraiment une bonne nouvelle.
Et par exemple,
ça n'a pas tellement été médiatisé d'ailleurs.
Concrètement, qu'est-ce que c'est pour eux qu'ils ne vont pas investir, par exemple, dans des entreprises comme des entreprises de pétrolières?
Non, ils vont plutôt adopter l'idée des filtres, de favoriser les entreprises qui sont les mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se limiter complètement. Là. Mais l'idée, c'est, derrière ça, il y a la philosophie. Puis je veux dire que nous, on est d'accord avec ça, c'est qu'il y a un certain lien entre être un bon citoyen coopératif, ou en tout cas un pas pire citoyen coopératif, puis la performance financière. Si une entreprise a systématiquement des problèmes, des poursuites, des amendes environnementales, est vue comme le gros méchant, il y a des chances que la performance, ça a un impact sur la performance. C'est pas tout le temps le cas. Par exemple, ExxonMobil, la plus grosse pétrolière au monde, c'est la pire compagnie au niveau des changements climatiques, au niveau de... Ils ont plein de problèmes de droits de la personne, etc. Puis ils font plein d'argent. Fait que c'est pas nécessairement le cas tout le temps.
Ça m'amène un petit peu sur les filtres qu'on touche un petit peu depuis tantôt. Les filtres, donc le filtre consiste vraiment en une sélection des entreprises. Par exemple, moi, éventuellement, j'investirais dans un REA. Je demanderais, est-ce que vous pouvez investir dans des fonds éthiques? Et à travers ces fonds-là, le fonds ferait une sélection, soit une sélection de tout simplement décider que le fonds n'encourage pas, par exemple, des pétrolières, ou choisit, par exemple, des pétrolières. C'est moi.
Il n'y en a pas vraiment. Il y en a qui se spécialisent en technologie environnementale, puis eux, ils vont évidemment pas investir dans les pétrolières, mais habituellement, quand c'est un fonds dit diversifié puis qui investit un peu partout dans le marché, il s'enlève pas d'aucun secteur, à part peut-être le militaire, le nucléaire, les secteurs vraiment qui considèrent qu'ils veulent pas du tout contribuer. Mais c'est aussi que les pétrolières puis les minières au Canada, c'est tellement tellement important dans l'économie canadienne là, pour un investisseur, là, pas pour monsieur tout le monde nécessairement, mais pour l'investisseur, il y a plein de compagnies dans ces domaines-là, donc ils peuvent pas, ils pourraient l'éviter, mais ils préfèrent pas parce que
c'est un gros joueur.
Ça va enlever de la diversification de leur portefeuille.
Mais est-ce que c'est considéré comme un fonds éthique?
Ben, ils se disent fonds éthique. Faut dire que fonds éthique ou fonds responsable, il n'y a pas d'appellation contrôlée, il n'y a pas de certification jusqu'à présent, donc tout le monde peut se dire responsable.
Mais d'où l'importance de consulter des gens comme GroupMaeve.
Ouais, nous on a nos propres opinions sur certains fonds, c'est sûr. Puis c'est parce que des fois les fonds ont une politique, mais là maintenant comment est appliquée, ça c'est une autre histoire. Mais il y a des fonds comme dans le Canada, à Vancouver, Ethical Funds, qui sont un fonds qui ont des filtres, mais eux, ils se disent, OK, on a des filtres, mais on n'est pas dans, nos compagnies ne sont pas parfaites, donc on va essayer des influencer. Et puis, alors, ils mélangent un peu des deux, là, les deux stratégies, justement. Puis c'est ce qu'il y a de plus intéressant, là, d'après moi, au Canada.
Mais avez-vous une idée de combien de fonds éthiques existent au Québec ou au Canada en général?
Il y en a une quinzaine. OK. Ouais. Ça, sont sur notre site, d'ailleurs, Investissement Responsable.
On revient peut-être après la pause avec des exemples concrets, justement, de qu'est-ce qui existe au Québec et est-ce qu'on est en retard au Québec par rapport à différentes autres contrées lointaines? Mais on se demandait au Québec que se passe-t-il avec ces investissements? Sont-ils responsables dans les caisses de dépôt, placements, fonds, etc.? Eh bien, François Meloche du groupe Investissement Responsable va nous renseigner un petit peu plus à partir peut-être de cas concrets. Qu'est-ce qui se passe au Québec?
bon, il y a quelque chose. Le militantisme là, au niveau des investisseurs a beaucoup augmenté dans les dernières années. Les lois ont changé pour permettre des propositions d'actionnaires aux assemblées. Au Québec, il y a un groupe qui s'appelle le Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises, qui sont principalement des communautés religieuses, qui sont très actives dans ces dossiers-là. Puis, ils ont eu des dialogues avec quelques entreprises québécoises. Et puis, en ce moment, bon, par exemple, Alcan, par rapport à son dossier en Inde, parce qu'Alcan a un projet de bauxite, de mine de bauxite en Inde, qui a soulevé la controverse là-bas. Et puis, bon, là, il y a des questions qui sont posées là, par rapport à comment que la consultation a été faite, c'est quoi les impacts sur la communauté, est-ce qu'ils sont bien compensés, tout ça.
Ça, alors, c'est toujours lors de l'assemblée annuelle?
Ben non, justement, ça, c'est entre les deux, finalement. Il y a des rencontres qui ont lieu. Ça peut avoir lieu, des rencontres. Quand tu es un actionnaire, tu peux demander à une entreprise, je voudrais vous rencontrer, puis on va discuter de ça. Puis habituellement, une compagnie comme Alcan répond à ça, parce que ils ont une philosophie de dialogue, là. Même si, bon, ça ne veut pas dire qu'il y a des résultats tout de suite. Mais, alors, ça, c'est un cas. Il y a eu des dialogues avec des compagnies forestières aussi, avec Abitibi Cancer Related, pour essayer de voir comment ils pourraient accélérer leur certification de leur forêt selon des normes de certification là, environnementale. Là. Et puis, c'est des exemples. Là, il y en a avec Power Corporation aussi. Il y a eu du dialogue au niveau de leur investissement dans une pétrolière qui est en Birmanie. Un régime dictatorial. Alors, ça touche à plein de sujets, comme vous pouvez voir. Ce n'est pas juste l'environnement précis. Là, mais ça...
Donc, est-ce qu'on est au Québec en tête de peloton ou vraiment...
Ben, je dirais que dans le Canada anglais, ça bouge beaucoup. Puis aux États-Unis, évidemment, là, il y a peut-être 200 propositions d'actionnaires, 300 à chaque année. Puis il y a des rencontres. Récemment, les communautés religieuses, ils ont eu une rencontre avec le président de Walmart. Puis Walmart est arrivé avec 10 autres personnes. Puis c'était une rencontre, super grosse rencontre à New York, où est-ce que là, eux posaient toutes leurs questions sur tous les sujets, là, les relations de travail, les droits de la personne. Et puis Walmart devait répondre. Fait qu'il y a vraiment un rapport de force intéressant qui s'est établi. Là. Mais bon, c'est tout dans le processus d'influencer les entreprises au niveau de leur réputation, puis au niveau de leur faire les chaînes.
Leurs ajustements, ouais, leur comportement sur le terrain.
C'est ça. C'est pas... c'est un genre, c'est une stratégie, dans le fond. Puis en ce moment, au Québec, ben, il y a quand même des nouveaux fonds qui sont arrivés dans le Canada anglais dans les dernières années. Là, dans les 5 dernières années, il y a eu une explosion de fonds responsables. Maintenant, la question du militantisme commence à prendre de plus en plus de place. Puis là, on va voir beaucoup les caisses de retraite là, commencer à être actives. Là. Aux États-Unis, déjà, ça a commencé. Là. Il y a des grandes caisses de retraite, l'équivalent de la caisse de dépôt, mais aux États-Unis, qui font des propositions d'actionnaires. T'sais. C'est plus juste de voter. Là. La caisse de retraite de l'État de New York fait des propositions d'actionnaires. Celle du Connecticut fait des propositions sur les changements climatiques, rencontre ExxonMobil, tout ça, tu sais. Alors, si eux le font, nous, on devrait pouvoir le faire aussi. Nous.
Donc, ça bouge, j'ai pas à dire en ce sens. Est-ce qu'on se pose, on se pose la question souvent, est-ce que ça rapporte quand même ces fonds-là lorsqu'on parle de contraintes éthiques ou environnementales? Est-ce que c'est comparable? Parce que quelqu'un qui va investir veut quand même avoir un certain rendement sur ses actions.
Ouais, ben, historiquement, les fonds responsables avec des filtres là, traditionnels, comme on les comprend, il y a eu plein d'études qui ont été faites, puis on voit jamais vraiment de distinction là, claire entre les fonds éthiques ou non éthiques. Bon. Puis même, tranquillement, avec le temps, de plus en plus, les fonds, il y en a de plus en plus qui sont ouverts, puis sont de plus en plus, il y a de plus en plus de bons gestionnaires qui commencent à gérer ces fonds-là. Donc, la performance va avec. C'est pas, donc, ça enlève pas vraiment, ça enlève pas de performance, là. D'après les études.
Mais est-ce que c'est plus risqué ou c'est
non.
Aussi même chose?
Ben c'est pas
peut-être
plus risqué.
Même, non?
Je veux dire, si tu t'enlèves complètement des gros secteurs, peut-être que tu ajoutes un peu de risque. Mais en général, c'est t'enlèves les fonds qu'on connaît au Canada, là, ils n'enlèvent pas des gros secteurs. À part peut-être le militaire que là. Après le 11 septembre, les compagnies militaires ont quand même fait du cash. Là. Donc à ce niveau-là, c'est ça, peut-être tu perds un peu, mais mieux vaut pas investir dans ces compagnies-là.
Donc, peut-être en terminant, François Meloche, le simple citoyen qui éventuellement va investir, où doit-il se référer? Est-ce qu'il doit se renseigner? Est-ce que les gens sont adaptés à la réalité pour pouvoir les conseiller?
Bien, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup d'informations. Puis se faire une idée sur les entreprises, c'est très difficile. Puis nous, on le fait. C'est ça notre job. Donc, peut-être première chose, c'est s'informer. Puis s'informer en allant sur notre site là, du groupe Investissement Responsable. Et puis, deuxièmement, c'est de parler aux gens qui gèrent votre argent. Que ça soit un conseiller en placement, que ça soit le régime de retraite de la place où vous travaillez, ou, comme je disais tantôt, les étudiants, leur institution. T'sais. C'est tout le temps de parler à ces gens-là pour leur dire est-ce que vous avez des politiques, au moins une politique de vote, puis après ça, une politique d'investissement.
J'imagine que tous les gestionnaires de portefeuille ont au moins entendu parler des fonds éthiques.
Oui, puis il y en a plusieurs qui répondent parce qu'ils voient que c'est un marché, là. C'est pas parce qu'eux, ils ont. Ils sont super motivés ou militants. Là, c'est qu'ils voient qu'il y a des clients qui veulent ça, puis ils répondent à la demande.
Ouais. Eh bien, François Meloche du groupe Investissement Responsable, on vous remercie beaucoup d'être venu un petit peu nous éclairer sur qu'est-ce que les fonds éthiques. Et je crois que c'est très encourageant d'entendre un petit peu parler de ça dans une société où justement on a l'impression que l'argent mène le monde, mais si elle peut le mener dans le bon sens, c'est une bonne chose.
Tout à fait.
On vous invite à aller consulter d'ailleurs le site internet de groupe Investissement Responsable et il sera sur notre site au www.radiodelirium.net. Avec les coups de cœur, coups de masse à Delirium Environnemental, c'est notre plaisir de fin d'émission. On le partage avec vous. Qu'est-ce qui nous enrage ou nous fait plaisir?
Moi, j'ai été complètement outré cette semaine en rentrant dans le métro et en voyant sponsoriser les annonces et les actualités dans le métro sur les espèces d'afficheurs électroniques dans les wagons. Qui est-ce qui sponsorise les actualités dans le métro?
Commandite.
C'est qui? C'est Mazda. Mazda 3 qui est le commanditaire officiel de l'actualité dans le métro et de tout ce qui se passe dans l'actualité. Un sérieux blâme, là. Sérieusement. Écoutez, on est dans un système de transport en commun. C'est pas la place à Mazda pour faire ça. Voyons donc.
Moi, j'ai un petit coup de cœur en fait mitigé coup de masse. On a des centres de recyclage ou plutôt des bacs à recyclage dans le métro maintenant. Ce qui est une bonne chose en soi. J'inviterai les gens, par exemple, à ne pas jeter leur journal dans les poubelles et j'inviterai les gens qui voient des gens le faire, eh bien, leur dire excusez, monsieur, il y a des bacs à recyclage.
Par le bon bac.
Hey, gros coup de cœur de ma part. En fait, je suis tombé sur une carte du monde diplomatique. Ça s'appelle l'enjeu de l'eau en Amérique. On va vous mettre le lien. C'est à voir sur le site du Monde diplomatique. En fait, une carte qui montre tous les sites de pompage, les volumes à pomper et les routes existantes de l'eau et celles qui sont prévues pour le commerce intercontinental de l'eau douce en vrac. Alors, c'est pas mal intéressant. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil à ça. On s'aperçoit que le Québec, c'est un endroit où il y a du pompage de prévu.
Un coup de masse solide à M. John Efford, ministre des Ressources naturelles, qui, malgré les efforts depuis 4 ans pour qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'industrie automobile, a réussi, malgré tout, à influencer les décisions pour que, finalement, on arrive avec
des mesures volontaires pour l'industrie canadienne de l'automobile pour qu'elle réduise leurs émissions de gaz à effet de serre. Un sérieux blâme à toute l'équipe Martin, mais surtout à M. Efford. Sérieusement, pensez-vous qu'on vous prend au sérieux?
Non, mais je pense qu'on peut les mettre tous dans le même bateau. Dion, Efford et Martin faisant partie du même bateau. Eh bien, changez de capitaine si vous n'êtes pas content. Nous avons Étienne Côté-Paluc à la régie qui s'amuse de temps à autre à participer à cette émission de façon vocale, et c'est à toi.
Oui, donc moi aussi j'en profite pour faire un petit coup de cœur cette semaine. Partout au pays, c'est le lancement du DVD de The Corporation, un film assez essentiel pour ceux qui ne se sont pas fait une idée encore sur toute cette espèce de mouvement altermondialiste, nouvelle gauche, machin. Faites pas rien de nouveau pour ceux qui s'y connaissent déjà, mais quand même un beau wrap-up, si vous me permettez l'expression anglaise, de plusieurs intervenants de ce milieu-là. Donc le film a déjà gagné plusieurs prix, 25 prix internationaux, ça vaut vraiment la peine de jeter un petit coup d'œil.
Donc The Corporation, très bonne suggestion. Hugo Lachapelle également, une bonne suggestion, je crois.
Eh bien, dans la même ligne d'idée, il y aurait le film de Tech qui va être présenté sur les ondes de CBC Television, en anglais bien entendu, jeudi le... jeudi passé. Mais bon, de Tech, un film à voir dans la même lignée. Tout à fait intéressant.
Bon, écoutez, moi je vous invite à un rassemblement famille. Ah, c'était la semaine passée. Eh bien, la FEUC, Fédération étudiante universitaire du Québec, et la FEC, Fédération étudiante collégiale du Québec, vous invitent tous et toutes, parents, familles, amis, à ce rassemblement familial 18h au Parc La Fontaine ce mercredi. Eh bien, il va y avoir du monde à la messe. Les locaux locaux seront présents. Paul Piché également, je crois. Et c'est évidemment pour contester contre les coupures dans les prêts et bourses, soit dans le système d'éducation. Mais pour beaucoup plus que ça, vous en doutez, c'est pour l'ensemble de l'œuvre du gouvernement présent.
J'en profite. Oh, j'ai même pas le temps pour mon dernier coup de masse. Un dernier coup de masse, justement, en mouvement de grève. Écoutez, on est, je pense, en ce moment, témoin d'un mouvement assez majeur sur la mobilisation étudiante et justement les revendications qui sont faites par les étudiants. Je lève mon chapeau. C'est d'une beauté. Je pense qu'on a quand même accès à plusieurs moyens de manifester. Et puis demain, c'est le temps de le faire au Parc La Fontaine à 6h.
Eh bien, coup de cœur, évidemment, au mouvement de masse. François Meloche, investissement responsable, nous vous remercions d'avoir été présent aujourd'hui. Patrick Bonin, au micro, qui vous remercie. Nicolas Mainville, Nicolas Milo, étant absent. Sofiane Legendre également, Hugo Lachapelle, Étienne Côté-Paluc, toute l'équipe. www.radiodelirium.net, c'est notre site. Et on se réécoute la semaine prochaine. Écrivez-nous s'il y a des choses. Bye-bye.
It's got a magnetic phonotape, head distortion to a sense, harmonic unmeasurable. Stop it, you've got me. We're going to mind wide.